Radio Kapi.
Tête à tête, João Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi hier à la cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, les deux chefs d'État angolais et congolais ont échangé sur la possibilité de relancer les dialogues entre les autorités de la RDC et celles du Rwanda. Et puis la marche de membres et sympathisants de l'ECID et l'accueil de son leader Martin Fayoulou, c'est dimanche interdit. D'après le général Silvano Kasongo, ce sont les instructions reçues de la hiérarchie de la ville. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Michel-Xavier Biang, président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dirige une délégation en RDC depuis le début de la semaine. Il parle notamment du régime d'embargo sur les armes qui, selon lui, ne concerne que les groupes armés. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. João Lourenço, chef de l'État angolais et médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, a échangé ce samedi 12 novembre avec le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. Leur discussion portait sur la possibilité de relancer les dialogues entre les autorités de la RDC et celles du Rwanda à la suite de l'appui que Kigali apporte au groupe terroriste M23 qui occupe une partie du territoire congolais. Après un tête-à-tête de près de 2 heures, seuls les ministres des Affaires étrangères de l'Angola et de la RDC se sont exprimés devant les médias. Billy Van Lutumba.
La principale question analysée par les deux chefs d'État, c'est la sécurité dans la partie est de la RDC. Ainsi, cette rencontre, ont indiqué Christophe Lutundula et Xador Tete Antonio, que cette rencontre de Kinshasa, à l'instar de celle d'hier à Kigali avec le président rwandais, est une suite de la réunion tripartite tenue la semaine dernière à Luanda. Cette visite du président Lourenço ici à Kinshasa s'inscrit donc dans le cadre du suivi de la montée des actions en rapport avec le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Au cours de l'échange entre les deux chefs d'État, a souligné le ministre angolais, il a été également question du déploiement du mécanisme de vérification ad hoc à Goma, ici en RDC. La finalité, a-t-il poursuivi, est de parvenir à un maintien d'un dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères.
Une autre visite à Kinshasa, c'est celle de la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide. Madame Alice Wairimu Nderitu, qui séjourne à Kinshasa depuis quelques jours, dit être venue dialoguer avec les autorités du pays, les responsables de la MONUSCO, ainsi que des représentants de la société civile sur son mandat et sur le renforcement des mécanismes de prévention des atrocités dans les pays. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
I have come to the Democratic Republic of Congo to look into the issues that pertain to my mandate.
Je suis venu en République démocratique du Congo pour examiner les questions qui relèvent de mon mandat. Et mon mandat est la prévention du génocide. J'ai un mandat global, donc je voyage dans le monde entier. Ma présence ici ne signifie pas que j'ai dit qu'il y a un génocide en RDC, parce que mon bureau ne détermine pas si un génocide a lieu ou non. Ce que mon bureau fait, c'est signaler les facteurs de risque qui pourraient exister et qui pourraient indiquer la présence des crimes d'atrocité, c'est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides.
Pendant ces temps, dans l'est du pays, des jeunes de Rutshuru sont forcés par le M23 de rejoindre ses rangs. Cette dénonciation est du député provincial Ngarouye Mouhozi Emmanuel, élu du territoire de Rutshuru. Dans une interview accordée à Radio Kapi hier samedi, il fustige ce comportement des rebelles du M23 qui pourchassent les jeunes dans les zones qu'ils occupent et les forcent à rejoindre leurs rangs. Tout en appelant toute la nation congolaise à la solidarité, Ngarouye Mouhozi Emmanuel demande aux jeunes de Rutshuru de ne pas céder à ces manipulations. On l'écoute au téléphone de Pierrot et la Mégie.
Je suis alerté depuis ce matin par la population du territoire de Rutshuru dans les zones contrôlées par les terroristes du M23, et particulièrement dans les groupements de Busanza à Mahimavuba, à Kiringa, dans les groupements de Bukoma, à Kahunga et à Buironde, et dans la commune de Rutshuru, particulièrement à Mabungo, et Mapendo et les environs. Ces jeunes sont forcés, sont pourchassés pour les recruter des forces dans les rangs de M23. Et les jeunes sont vraiment très inquiets parce que ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas prêts à coaliser avec ces mouvements criminels. Ainsi, je recommande à nos jeunes de continuer à résister et avancer le taux malgré qu'ils sont pris en otage, de refuser d'appartenir à ce mouvement criminel qui ne veut que les exposer à la mort. Je finis en appelant la population congolaise à la solidarité.
Et puis, appel du chef de l'État à la vigilance communautaire et l'adhésion au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, point de vue des jeunes. C'est l'intitulé d'une conférence débat tenue hier samedi dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Elle a réuni autour d'une même table des représentants de l'armée et les leaders de la jeunesse. Organisée par le bureau d'études et d'accompagnement avec l'appui financier de la MONUSCO, cette rencontre a eu pour objectif d'échanger sur les attentes des uns et des autres pour une mise en œuvre de cette vision du chef de l'État pour en finir avec l'agression étrangère contre la RDC. Gulen Kassassia a pris part à cette activité. Voici son reportage.
Dans son exposé, le capitaine Anthony Mwalushi, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, a salué la collaboration entre la jeunesse de Beni et les services de sécurité dans les alertes. Il a par ailleurs demandé à cette jeunesse d'adopter un comportement responsable en canalisant correctement les alertes aux services compétents.
Vous êtes en ignorant que beaucoup de leaders, beaucoup de jeunes ont mal interprété cette allocution du président de la République sur la création des groupes de vigilance. Alors il a fallu expliquer aux jeunes leaders de Beni ce que le commandant suprême a tenté. Nous avons expliqué comment canaliser nos alertes vers les autorités militaires qui ont le pouvoir de sécuriser la population.
Les participants se sont, pour leur part, dit favorables à l'appel du chef de l'État. Benjamin Assimoni, vice-président de la jeunesse de Beni, explique.
Dans ces nouvel élan, nous allons devoir observer une vigilance ordonnée au sein de la jeunesse de Beni, parce que cette fois-là, ça sera des communes collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Nous avons essayé d'être beaucoup plus pratique. Parlant de la vigilance, normalement, quel comportement doit-on adopter?
Les jeunes de Beni ont recommandé à l'armée d'avoir une attention particulière sur ces groupes de vigilance afin de lutter efficacement contre certains dérapages. Beni, Guilaine Kassassia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, plus de 300 personnes, membres des différentes communautés locales, se sont réunies pendant 3 jours pour renforcer la cohésion sociale. C'était au cours d'un atelier qui s'est clôturé hier samedi dans la localité centrale Solenyama, à 12 kilomètres au nord de Bunia, dans les territoires d'Irumu. Selon le chef de la chefferie des Babo Abokoé, ses administrés et les populations des entités voisines ne se fréquentaient pas depuis les conflits armés par des milices actives en Ituri. Lémi Zurabo demande à sa population de tourner la page afin de donner une chance à la paix pour soutenir les efforts des autorités de la province. Il est au micro de Jean-Claude Lokidili.
L'objectif visé, c'est réconcilier la population de la chefferie des Babo Abokoé. Et surtout, nous avons ciblé la jeunesse, parce que la jeunesse est le moteur de notre entité et surtout le moteur du développement. Nous avons ciblé cette jeunesse et toute la population pour que tout le monde soit à la page. Et surtout, par rapport à tout ce qui s'était passé, nous avons demandé à tout et chacun de tourner la page et que nous prenons un nouvel élan pour le développement de l'entité et surtout pour l'unité, l'amour, le pardon et la cohabitation pacifique de la chefferie des Babo Abokoé.
Signalons que le thème qui était débattu au cours de cette rencontre était amour, pardon, unité et développement pour la cohabitation pacifique en chefferie des Babo Abokoé. Le commissariat provincial de la police demande aux sympathisants du parti politique SID de ne pas se regrouper ce dimanche pour une quelconque marche ou attroupement pour l'accueil à l'aéroport de Ndjili de leur leader Martin Fayulu. Dans une interview radio Capi, général Silvano Kassongo indique que, d'après les instructions de l'autorité urbaine de Kinshasa, cette initiative de l'SID est interdite. Voilà pourquoi il demande à tout et chacun de vaquer à ses occupations habituelles, car la police ne permettra aucun attroupement, surtout en cette période où des chefs d'État étrangers arrivent et repartent à Kinshasa à partir de l'aéroport de Ndjili. Le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, est au téléphone de Billy Ivan Lutumba.
Nous avons discussion avec le service du gouverneur interdisant la marche compte tenu des zones nettes. Le gouverneur n'a pas pris acte. Par conséquent, on a pris une réunion avec le chef de l'SID. On lui a dit que nous n'avons aussi de la loi et nous devons respecter les dispositions de cet arrêté. Alors, on n'a pas trouvé une solution. C'est pourquoi nous demandons à la population d'évacuer les éléments d'exécution et la police va prendre des dispositions pour que l'ordre ne soit pas troublé. Alors, si le président va venir, il va venir normalement, il va rentrer chez lui comme tout le monde. Aucun attroupement ne sera autorisé et tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé. Le problème de l'agression de notre pays, tout le monde est à l'unité, nous sommes contre l'agression, les Chinois et les Chinois sont contre, mais nous devons faire des marches suivant les normes et en respectant l'instruction de ces autres. Nous avons les chefs d'État qui sont au sujet. Il y a le président de la République d'Angola et de la Guinée-Bissau qui sont ici. Il y a d'autres présidents qui vont venir encore, d'autres qui vont rentrer. Il ne faudrait pas que l'ordre public soit troublé. Nous devons maintenir le public pour que les hommes marques puissent rentrer dans l'inquiétude. C'est pourquoi nous avons demandé à nos amis de décider de former un petit comité restreint pour accueillir les leaders.
Autre nouvelle, la Calemi, l'ONG Enfants sans frontières, RDC, a apporté de la nourriture vendredi aux enfants en conflit avec la loi. Ces enfants sont détenus dans la cellule spéciale pour mineurs, attachée à la prison centrale de Calemi. Témoin de l'événement, Paul Amunanga.
Il s'agit d'un projet d'appui alimentaire qui est exécuté par l'ONG Enfants sans frontières RDC avec l'appui financier de l'HBL Mon Congo de la Belgique. D'après le directeur de cette ONG, c'est tous les vendredis depuis 4 mois qu'ils apportent de la nourriture à ces enfants qui sont détenus à la cellule spéciale pour mineurs. Alima Siwaso explique le pourquoi de leur action en faveur de ces enfants.
La santé des enfants était médiocre. Il y a certains enfants qui tombaient dans l'étape de la malnutrition aiguë modérée. Il y a eu même des malnutris aiguës sévères et ces enfants étaient soignés toujours à la prison. C'est cette action-là, au lieu que les enfants continuent à subir cette étape de la malnutrition, nous étions poussés de toquer de gauche et à droite pour que nous puissions commencer à aider ces enfants-là, juste donner de la nourriture à ces enfants.
D'après le directeur de cette cellule pour enfants, actuellement il y a 47 pensionnaires qui sont âgés de 14 à 17 ans. Mais la cellule n'a que 3 lits et dont la majorité des détenus dorment à même le sol. Léon Ilunga souligne que ce pavillon construit par la MONUSCO il y a une dizaine d'années est exigu par rapport au nombre croissant de détenus. Il plaide pour la construction d'une autre cellule. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis renforcement de la sécurité à la prison centrale de Lissala avec la réhabilitation des 2 battants du portail. C'est en vue de contrer de nombreux cas d'évasion massive qui surviennent dans cette maison carcérale vieille d'un siècle. Les travaux ont été effectués par la Fondation Bibi Chilimbaya en vue de lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Cette action a été saluée au plus haut point par l'ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, AJBS, qui en a fait plusieurs fois le plaidoyer. Des détails avec Paul Richard Malingela.
Le portail de la prison centrale de Lissala est en métal, mais il est tombé et depuis plusieurs mois, il est resté comme une véritable passoire pour nombre d'évadés. Le plaidoyer mené alors par l'ONG AJBS a trouvé un écho favorable, comme l'explique Roger Nzumbu, le président national de l'AJBS.
La Fondation Bibi Chilimbaya donnait les fonds pour que les magistères puissent réhabiliter ces portails-là. On a monté cette porte, soudé ça et là, et maintenant quand même, les gens ne peuvent pas sortir comme par le passé.
Dans son communiqué publié ce samedi, la JBS demande à toute autre structure étatique, non étatique ou philanthropique, d'emboîter le pas à la Fondation Bibi Chilimbaya, notamment pour le raccordement de la prison à l'eau potable de la Régie des Eaux, mais aussi pour une dotation ne serait-ce que des nattes aux prisonniers qui passent la nuit à même le sol. Notons qu'en dépit de quelques travaux de réhabilitation déjà réalisés par-ci par-là, la prison centrale de Lissala, communément appelée 22, n'inspire pas toujours la sécurité à cause de sa vétusté, car elle a été construite en 1922, il y a de cela donc 100 ans. À ce jour, la toiture et la maçonnerie ont perdu leur rigidité, ce qui explique en partie les évasions massives à répétition dans cette maison carcérale. Notons aussi que la Fondation Bibi Chilimbaya appartient à l'épouse de l'actuel gouverneur de province de la Mongala. Bandaka Paul Chamalengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Égypte, au moins 19 personnes ont été tuées samedi 12 novembre et 6 blessées quand leur minibus s'est retourné sur une route dans le delta du Nil, dans le nord du pays, a indiqué le ministère de la Santé, d'après l'AFP. Et puis, le Parti démocrate est en mesure de conserver le contrôle du Sénat américain après la victoire de Catherine Cortez Masto, candidate aux élections de mi-mandat dans l'État du Nevada, selon les résultats publiés samedi 12 novembre par les médias américains. En remportant un dernier siège sur les 2 restants, le parti du président Joe Biden atteint les 50 sièges nécessaires pour une majorité, pouvant en plus utiliser le vote de la vice-présidente Kamala Harris pour départager les égalités.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui dirige une délégation en RDC depuis le début de cette semaine. Michel Xavier Biang parle notamment du régime d'embargo sur les armes qui, selon lui, ne concerne que les groupes armés et non pas le gouvernement congolais. Il s'entretient ici avec Grace Amzati. Suivez.
Monsieur Michel Xavier Biang, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la RDC est soumise à un embargo sur les armes?
Un embargo sur les armes veut dire une interdiction d'acheter les armes. Sur ce, je dis de façon claire et sans équivoque, non. Le gouvernement de la RDC n'est pas soumis à un embargo. Le gouvernement de la RDC a la pleine possibilité d'acquérir des armes où il veut, avec qui il veut et là où il peut. Depuis 2008, le régime de sanctions ne concerne que les groupes armés qui déstabilisent la RDC. La notification concerne les partenaires auprès de qui la RDC veut acheter ou acquérir des armes. Ces partenaires sont obligés de notifier, c'est-à-dire informer les Nations Unies.
Les groupes armés sont équipés des armes et autres matériels militaires, cas du M23. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes et qu'est fait l'ONU face à cette situation?
C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que nous allons faire un certain nombre de pays voisins pour comprendre comment est-ce que ces groupes armés font pour s'armer, comment ils font pour avoir des armements sophistiqués. Et toutes les informations que nous allons recueillir, nous allons les porter à la connaissance du Conseil de sécurité pour que des décisions éclairées puissent être prises.
Et pourquoi n'y a-t-il pas des sanctions du Conseil de sécurité contre les Rwanda et l'Ouganda, pourtant accusés de soutenir les conflits en RDC?
Ça rejoint le travail du comité. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Nous devons recueillir toutes les informations sur ce que fait chaque pays, sur ce que fait chaque acteur, sur qui fait quoi et comment. Vous vous imaginez, n'est-ce pas, que si vous le décidez, étant loin, vous pouvez être accusé de partialité ou d'impartialité. On peut vous faire le procès d'écouter un camp et de ne pas écouter assez l'autre. Alors il est important que ceux qui sont appelés à décider puissent toucher du bois, puissent être sur le terrain, savoir exactement qui fait quoi, qui fait bien, qui fait mal, et informer le Conseil de sécurité. C'est pour cela que nous échangeons avec la plupart des autorités ici, aussi bien les autorités militaires que les autorités politiques, la société civile, le secteur privé, pour avoir une vue d'ensemble pour nourrir la gouverne du Conseil de sécurité. Toute entité qui soutient les groupes armés, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, et lorsque tout est documenté, peut être soumis au régime de sanctions.
Après Kinshasa, vous vous rendrez au Rwanda et en Ouganda. Quel message particulier que vous apporterez au président de ces deux pays par rapport à la situation actuelle de la RDC?
Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'un mandat qui est très clair. Notre mandat est de nous assurer de la mise en œuvre de la résolution 1533. C'est ce que nous faisons ici, en RDC, c'est ce que nous allons faire au Rwanda, c'est ce que nous allons faire en Ouganda. Rassembler toutes les informations, rassembler les éléments sur le financement, l'équipement des groupes armés.
Au mois d'août 2022, les groupes d'experts sur la RDC a signalé qu'ils disposaient des preuves solides du soutien du Rwanda au M23. Pourquoi ces rapports n'ont-ils pas été rendus publics?
Ce rapport était un rapport d'étape, un rapport confidentiel. Ce rapport un rapport que un groupe d'experts rend qui est destiné au comité. Et le rapport final est prévu pour sortir en décembre. Vous comprenez, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas anticiper ou alors apporter une dérogation, n'est-ce pas, à nos procédures. Nous attendons le mois de décembre pour avoir l'ensemble des fragments, l'ensemble des parties de ce rapport et vous aurez l'entièreté, la plénitude du rapport des experts.
Quel message à toute la population congolaise sur ce qu'est fait aujourd'hui les conseils de sécurité pour permettre à la RDC de vaincre la guerre contre l'M23 notamment?
Le message, c'est que le Congo est un grand pays, le Congo est membre des Nations Unies, le Congo peut compter sur les Nations Unies, le Conseil de sécurité, comme les autres organes des Nations Unies, se penche et sont mobilisés à appuyer le gouvernement congolais, n'est-ce pas, pour ses efforts de stabilisation de l'Est de ce pays. C'est pourquoi de nombreuses initiatives qui visent la stabilité de l'Est du Congo sont soutenues par les Nations Unies. Je peux vous dire qu'il y a une véritable mobilisation des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo et l'Est du Congo.
Michel Xavier Biang, Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République démocratique du Congo sous la coordination de Pierrot et Lamegi et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci également à vous pour nous avoir suivis.